la sphère neuro. Célia Morès sur Nutri Radio.
Bonjour Célia Morès.
Bonjour Fabrice.
Comment ça va Célia?
Ben, ça va très bien. Écoutez, il fait beau, il fait de plus en plus beau. L'été approche, les beaux jours approchent. Donc le moral est remonté, on va dire.
Oui, et vous savez ce qui approche aussi?
Oui, ben le gala de Nutri Radio.
Voilà, c'est bravo, le Nutri Talk Gala, vous y serez.
Le 12 juin.
Le 12 juin, Côte d'Azur, Nice, rendez-vous sur le site nutritalkgala.fr pour en savoir plus, un parterre de personnalités engagées et pour la plupart des médecins, des chercheurs qui seront sur la scène du Nutri Talk Gala. C'est vraiment un grand moment puisqu'on va allier et marier le fond et le fun du savoir, des connaissances, du partage de tout cela et puis des moments où on va vraiment bien s'amuser et passer du bon temps ensemble. C'est ça aussi, de l'humain. Le 12 juin, c'est toute la journée, de 14h à 3h du mat, on y va, Dancefloor, Célia Morès qui fera la queue leu-leu. On attend ça avec impatience. Non, on n'ira pas quand même jusque-là, mais en tout cas, sachez que vous êtes les bienvenue. Aujourd'hui, on va passer directement dans le vif du sujet parce que Célia Morès, ses émissions, je peux vous dire qu'elle les prépare, qu'elle les travaille et on a la chance de vous avoir. On est très content, Célia. On est très content.
C'est un plaisir pour moi aussi, Père Fabrice. C'est vraiment un grand plaisir de pouvoir partager les connaissances et d'expliquer finalement comment notre cerveau fonctionne parce que c'est vraiment important justement de savoir comment il fonctionne pour pouvoir après agir finalement en conséquence de cause. Hein, on ne peut pas agir sans connaître le mode d'emploi. Donc, mon but, c'est de faire connaître le mode d'emploi pour qu'on puisse utiliser le cerveau à bon escient.
Et les masterclass de Célia Morès qui arrivent sur Nutri TV. Elles arrivent, mesdames, messieurs, elles arrivent. On vous en met une chaque 15 jours. Hein, un rafraîchissement du catalogue de Nutri TV. Tous les 15 jours, rendez-vous sur nutritv.fr pour assister à toutes ces masterclass. Et donc, celle de Célia Morès arrive. Célia, vous connaissez ce bruit? C'est ce que ça veut dire?
Oui, si je fais des répétitions d'un mot qui revient tout le temps et qui ne devrait pas être répété autant de fois.
Ah, Célia, moi, je vous adore parce que vous êtes une bonne cliente pour ça. C'est vrai, il faut quand même avouer que Célia, elle a peur de rien. Voilà, elle sort de sa zone de confort avec ses émissions. Pour elle, au début, ce n'était pas facile. Et là, voilà, maintenant, elle est à l'aise et je me permets de la taquiner parce que voilà, il faut toujours optimiser les choses. Vous voyez, il y a des tics de langage, que ce soit pour moi d'ailleurs ou pour elle ou beaucoup d'intervenants. Hein. Dès qu'on en détecte un, on essaie de le corriger. Et donc voilà, ça arrive. Moi, des fois, je me réécoute et je me rends compte que, par exemple, j'ai dit du coup 3-4 fois. Et donc, bam, je me mets 1 € dans la tirelire pour pouvoir faire un petit repas sympathique tous ensemble. Bon, Célia, allons-y. Comment notre cerveau perçoit les risques et perceptions des risques. Quelles sont justement ces perceptions du risque?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on parle d'humain, on est aversif au risque. Mais avant de parler de l'aversion que nous avons tous pour le risque, il faut savoir que preneur de risque ou non preneur de risque, alors ce que j'appelle non preneur de risque, c'est les personnes qui vont avoir tendance à éviter le danger, qui vont dire à moi, je ne prends jamais de risque. Et les preneurs de risque, c'est ceux qui vont peut-être conduire un peu plus rapidement, par exemple sur l'autoroute, parce qu'ils prennent des risques. C'est ceux qui vont faire des sports, j'allais dire, extrêmes. C'est ceux qui ont tendance à prendre des risques ou qui sont dans la finance, les traders, etc. Donc, on a deux types, on va dire, d'humains, de profils, de personnalités. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'on est tous preneurs de risques, quelque part, même quand on n'est pas preneur de risques. Je donne deux exemples. Quand on traverse la route, même au passage coûté, même au feu vert pour les piétons, quelque part, on prend un risque. On n'est pas à l'abri qu'une voiture déboule et nous renverse. On va prendre un risque, ne serait-ce que lorsqu'on monte ou descend les escaliers. On peut avoir peur de l'ascenseur et dire « je ne prends pas l'ascenseur, j'ai peur de l'ascenseur, je ne prends pas le risque d'être bloqué ». Mais dans les escaliers, on n'est pas à l'abri de faire une chute. Donc, mais ça, c'est des risques, on va dire, courants, des risques auxquels on est habitué. Donc moi, je veux vraiment parler de comment est-ce que l'homme va réagir au risque en disant « je fais une action, je ne fais pas cette action-là ». Donc, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a le risque réel qui est en fait, qui se base sur des statistiques, sur la probabilité qu'un événement se produise. Par exemple, on peut avoir peur de prendre le métro la nuit à 23h. On peut avoir peur d'aller d'un point A à un point B la nuit à partir de 23h aussi. Peu importe, voilà, c'était juste pour prendre deux exemples, à savoir si on prend les transports en commun, si on marche, etc. Ça, c'est un point de perception des risques. Le risque réel, ça serait de se baser sur effectivement les agressions qui peuvent se produire et se dire, ben voilà, ça c'est un risque réel. Il y a tant de risques que l'agression se produise. Mais nous, on fonctionne en termes de risque perçu et l'homme, effectivement, va finalement être aversif au risque. Je vais juste donner un exemple. Imaginez entre un gain certain de gagner 4 euros tout de suite ou de jouer et de gagner, d'avoir 50% de chance de gagner 8 euros et 50% de chance finalement de ne rien perdre. La plupart des personnes vont faire quoi ? Vont choisir le gain de 4 euros immédiatement.
Attendez, répétez.
Gain immédiat de 4 euros. Ou on joue, on a 50% de chance de gagner 8 euros et 50% de chance de ne rien perdre. C'est-à-dire que soit on gagne 8 euros, soit on ne gagne rien du tout, mais on ne gagne pas non plus les 4 euros. Mmh. Ben, la plupart des personnes vont d'abord choisir, effectivement, majoritairement, quand le test est fait, le test a été réalisé, des tests qui ont été réalisés évidemment en laboratoire, choisissent quoi ? Choisissent le gain certain de 4 euros. Et même chose pour des sommes plus importantes, un gain de 800 euros immédiat ou alors 85% de chance de gagner 1000 euros et 15% de chance, on va dire, de ne rien perdre. Donc là, on voit qu'on a quand même 85% de chance statistiquement de gagner 1000 euros et 15% certes de ne rien gagner, mais ça augmente les chances de gagner. Là encore, les personnes choisissent le gain immédiat. En revanche, si on dit aux personnes, vous avez une perte certaine de 500 euros, ou alors, vous jouez et vous pouvez avoir des chances de perdre, enfin chance ou risque, on va dire plutôt dans ces conditions, de perdre 1000 euros et 15% de chance de ne rien perdre. C'est-à-dire que cette fois-ci, on dit aux gens, soit vous perdez, vous êtes sûr de perdre 500 euros, soit vous jouez et peut-être que vous allez perdre plus 1000 euros, mais peut-être que vous n'allez rien perdre. Avec quand même un risque de 85% de chance de perdre 1000 euros au lieu des 500 annoncés au départ. Cette fois-ci, les personnes prennent un risque. Pourquoi ? Parce que l'homme est aversif au risque. Quand il raisonne en termes de gains, quand on raisonne en termes de gains, on va être aversif au risque. On ne prendra pas de risque. Mais si on raisonne en termes de perte, là, à ce moment-là, les personnes vont prendre un risque. C'est en cela qu'on va changer notre perception du risque et est-ce que je prends un risque, est-ce que je ne prends pas un risque. Le même type d'expérience a été menée effectivement avec c'était l'histoire d'une maladie asiatique à l'époque, donc c'était quelque chose de totalement fictif. Donc je dis à l'époque parce qu'évidemment maintenant on a eu il n'y a pas longtemps le Covid qui nous venait d'Asie, donc elle serait plus aussi fictive que ça, la maladie. Mais effectivement, c'était des situations, en fait, c'était exactement la même situation. Il y avait deux programmes proposés par les pouvoirs publics, donc tout était fictif, hein, et on demandait aux gens leur choix. Et suivant comment est-ce que les personnes, finalement, on allait parler aux personnes, quel était le cadrage, effectivement, des informations données. Est-ce qu'on raisonnait d'abord en termes de gains gain humain, en fait, c'est-à-dire on sauve des vies, ou en termes de perte humaine, alors que finalement, ça revenait au même. Les gens, dans une situation, prenaient un risque et dans l'autre, ne prenaient pas un risque. Donc, ce qu'il faut noter, c'est que le risque est subjectif et qu'il est lié aussi à nos représentations mentales. Il y a des choses qui, dans certaines familles, paraissent risquées, alors que dans d'autres, non. Nous-mêmes, on a des représentations mentales du risque, on a des perceptions d'un risque qui va être différent d'une personne à l'autre. Des personnes qui vont penser, comme moi, qu'à partir d'une certaine heure, prendre les transports en commun, c'est risqué. D'autres, pas du tout. On va avoir des perceptions de risque de se balader peut-être dans certains quartiers ou pas. On va avoir les perceptions de risque de faire telle activité, alors que d'autres, pour eux, ça ne va pas de la perception de risque. Donc, ça dépend de nos schémas, de ce qui nous a été finalement nos schémas mentaux et finalement de notre éducation. Donc, ça va dépendre de nos croyances, des schémas cognitifs, des scripts, des représentations mentales. Et surtout, et nous allons le voir effectivement dans cette deuxième partie de l'émission, sur la classification des risques, chose importante qui va nous permettre de prendre ensuite une décision face au risque, hein, parce que lorsqu'on perçoit un risque ensuite, c'est pour prendre une décision. Effectivement, il va y avoir quoi ? L'attitude volontaire ou involontaire face au risque. Est-ce qu'on prend le risque volontairement ? Est-ce qu'on va le choisir ? On le prend, je fais acte de prendre le risque, mais je suis conscient que je prends le risque. Ou est-ce que c'est totalement involontaire ? On va voir ce que c'est dans les classifications des risques. Ou là, ça peut être évidemment plus compliqué d'accepter le risque.
Un risque involontaire, j'ai hâte d'avoir votre exemple. Vous savez, on a parler pendant justement cette fameuse époque du Covid plus que jamais de ce fameux bénéfice-risque en parlant du vaccin, par exemple. On marque une toute petite pause et on revient avec Célia Morès sur Nutri Radio.
La sphère neuro, Célia Morès sur Nutri Radio.
Ah, il faut suivre, mesdames, messieurs, il faut suivre. Évidemment qu'il faut suivre la sphère neuro parce qu'on fait travailler votre cerveau. Donc rien que dans les descriptions parfois de Célia, si vous n'êtes pas concentré, hop, une seconde d'inattention et votre cerveau, blam. C'est pour ça qu'il y a le podcast, ça c'est bien, le podcast pour bien réécouter. On parle du risque et de la perception des risques que l'on prend. Vous avez donné un exemple tout à l'heure, moi je me suis perdu sur la mise, vous savez, sur la mise, est-ce qu'on perd, est-ce qu'on gagne, mais s'il y a une perte, on n'est plus favorable à prendre un risque que si c'est un gain.
C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, si on raisonne, on va être preneur de risque. Si on raisonne en termes de perte, donc on va prendre un risque parce qu'on a une perte certaine, donc on va se dire, bah, peut-être que finalement, cette perte-là, même si la chance de ne pas avoir la perte est minime, je prends le risque. Alors que si on raisonne en termes de gain, effectivement, on ne prendra pas le risque éventuellement d'avoir une perte ou de ne rien perdre, mais de ne rien gagner. En fait, c'est vraiment ça, c'est-à-dire ça dépend de la manière dont l'homme va raisonner, en termes de gains ou en termes effectivement de pertes.
Et donc, comment on va classifier ces risques? Qu'est-ce qui est acceptable ou inacceptable, Célia?
Alors déjà, il faut savoir qu'il y a des risques qui sont acceptables ou inacceptables pour chacun d'entre nous. C'est-à-dire que ça va être modifié à des différences interpersonnelles. Mais il y a aussi des risques qui, pour tout le monde, sont acceptables et inacceptables. Alors, comment est-ce qu'on a trouver cela, c'est pas par hasard, c'est qu'il y a des chercheurs, donc notamment Fischhoff et Slovic, ça date des années même 70, hein, qui ont travaillé justement sur la perception des risques pour savoir comment les personnes classifiaient l'acceptabilité du risque. Ils en sont venus à dire que finalement, les risques pris volontairement, mais on va voir ce que c'est, je vais vous donner des exemples parce que je vais tourner quelques pages, alors si on entend des petits bruits, il ne faut pas s'inquiéter, c'est juste que j'ai ma représentation mentale des risques qui a été effectuée par les chercheurs et les questions qu'ils ont posées, c'est intéressant de reprendre exactement les mêmes mots parce qu'évidemment, si on change le mot, ça peut évidemment changer éventuellement le sens. Donc, il va y avoir ça. Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est un risque que je choisis? Un risque volontaire, c'est typiquement le risque lorsque je fais des loisirs. Hein, je sais pas, moi, je saute en parachute, je fais du ski nautique, je fais du parachute ascensionnel pour ceux qui sont dans le sud de la France. Par exemple, bah, on prend un risque, ce risque est volontaire, il est choisi, on ne le subit pas. On a décidé de le prendre. Un risque involontaire, c'est par exemple un crash d'avion. Ça va être un attentat. Ça va être effectivement, on parlait effectivement du Covid, effectivement des problèmes. Ça va être cela aussi qui est un risque involontaire et donc non choisi et donc subi. Donc, on va voir comment les gens vont les percevoir. Donc, finalement, quelles sont les questions que se posent les personnes, les questions que se posent les personnes qui permettent de dire finalement ensuite, j'accepte le risque ou je ne l'accepte pas. Est-ce que le risque est volontaire ou involontaire? Donc là, je viens de donner un exemple. Est-ce qu'il est immédiat ou différé? Un risque immédiat, c'est un risque qu'on va avoir tout de suite, avoir une conséquence peut-être négative immédiate de suite. Différé, on parlait effectivement, vous avez évoqué Fabrice, les vaccins bénéfice-risque. Bah, effectivement, le risque immédiat, c'est peut-être de mal réagir à un vaccin, mais on peut tous mal réagir à un médicament, à un vaccin, même si les vaccins, ce sont des vaccins qui sont donnés depuis des années. Hein, je parle de ceux qu'on fait même, enfin qu'on nous recommande de faire comme la poliomyélite, etc. Enfin, il y a des personnes qui peuvent très bien mal réagir au vaccin. Donc, il y a le risque immédiat, la réaction immédiate, l'allergie, et différé avec les conséquences à long terme d'avoir effectivement eu ce vaccin ou avoir pris d'autres médicaments. On l'a vu avec certains types de médicaments, entre immédiat ou différé. Donc, il y a toujours ce risque-là. Et effectivement, les gens vont regarder effectivement si pour eux c'est acceptable ou pas. Ça va être aussi la connaissance par rapport aux conséquences de ce risque-là. La connaissance, ça va être quoi? Soit scientifique. Alors, la science peut évidemment changer la perception des risques. Quand on est une scientifique comme moi, je ne vais pas forcément avoir peur justement de tout ce qui est médicaments, vaccins, etc. parce que mon background scientifique me permet d'appréhender effectivement la chose autrement que d'autres personnes. D'autres qui sont peut-être moins scientifiques peuvent peut-être avoir peur justement par rapport à ce qu'ils vont lire, etc. Parce que les connaissances techniques, ils ne vont pas les avoir ou ça va être compliqué, ils ne vont pas avoir les bonnes et ça peut être plus compliqué. Inversement, la connaissance en science peut nous conduire parfois à prendre des décisions irrationnelles parce qu'on va avoir une peur un petit peu irrationnelle de tout. La connaissance aussi des personnes qui ont vécu le risque. Quelqu'un qui a été agressé, par exemple, dans le métro, effectivement, ben, peut-être qu'on va percevoir le risque comme plus fort qu'une autre personne qui n'aura pas été agressée. Parce que notre ami nous aura dit, ben, moi, j'ai vécu ça. Et ben, forcément, ça va nous laisser un goût amer et nous dire, c'est pas acceptable, j'ai peur et pour moi, c'est un risque important. Donc, est-ce qu'il est contrôlable ou incontrôlable ? Contrôlable, quand effectivement je prends ma voiture et je conduis et je dépasse les limites de vitesse, quelque part, il est contrôlable, si je puis dire. Même si on peut perdre évidemment le contrôle de sa voiture, mais en fait, on a fait une action dessus. Il y a des risques qui sont contrôlables parce qu'on fait notre action dessus. Incontrôlable, c'est le crash d'avion, c'est effectivement les attentats, etc., etc. Est-ce qu'il est nouveau ou familier ? Effectivement, un risque nouveau nous fait beaucoup plus peur qu'un risque familier auquel on s'habitue. La grippe saisonnière, c'est un risque. On sait qu'il y a des gens qui meurent chaque année de la grippe saisonnière. Pourtant, on est habitué parce que c'est un risque familier. C'est des risques avec lesquels on vit. Le risque familier, ça va être de prendre sa voiture, d'avoir un risque, d'avoir un accident de voiture. Ça va être de traverser la route, même au passage clouté, au feu vert, donc sans avoir pris de risque réel, et qu'il y ait quand même un risque d'accident. Ça va être aussi, est-ce qu'il est effrayant ou pas ce risque-là ? Donc, est-ce qu'il est possible de vivre avec ou pas ? Évidemment aussi, quelle est la sévérité des conséquences de ce risque ? Alors, quand je disais que les gens ont classifié, donc c'est là où je tourne les petites pages, donc désolé pour le bruit, c'est qu'effectivement, comment est-ce qu'ils ont classifié ça, les personnes ? Ben, par exemple, en risque inconnu et risque effrayant. Donc, ça a été, Slovik a fait une carte, ce qu'il a appelé une carte cognitive. Il a partagé en quatre une feuille de papier, et donc avec donc deux droites qui se coupent, hein, perpendiculaires. Ça faisait quatre carrés avec risque effrayant et risque inconnu. Ben, parmi les risques effrayants, inconnus, qui font très peur, qui paraissent inacceptables aux personnes qui ont été interrogées, c'est le risque de guerre nucléaire, le risque d'accident avec le gaz. Ce type de risque, ça va être aussi le risque inconnu et qui sont effrayants, ça va être aussi le risque d'accident des réacteurs nucléaires, ça va être effectivement le risque des problèmes radioactifs, de la technologie liée à l'ADN, etc. Alors que les risques, parfois inconnus mais moins effrayants, ben, inconnus, par exemple, les risques de consommer de l'aspirine, de la caféine ou les vaccins, justement, qui ne se paraissent pas effrayants pour les personnes, mais qui sont quand même risques inconnus puisqu'on ne connaît pas effectivement à long terme quels sont les risques de la prise de certains vaccins. C'est pareil pour beaucoup de médicaments, pour le Valium, hein, qui est un médicament plutôt anxiolytique, va-t-on dire, sédatif, la caféine, l'aspirine, et les risques qui sont finalement acceptés, qui sont connus et finalement qui ne sont pas effrayants. Ça va être quoi ? Ben, ça va être les risques de skateboard, de faire du trampoline, d'aller nager effectivement en piscine, de prendre les escalators, etc., de traverser un pont, par exemple. Donc, en fait, comment est-ce que les gens vont classifier les risques ? En risques acceptables, qui sont les risques volontaires, choisis et non subis. Je prends le risque, c'est un risque familier, je prends ma voiture, je fais des loisirs, etc. Donc, je prends le risque effectivement d'aller faire du canoë avec des amis. Ou le risque totalement inacceptable, parce qu'il est incontrôlable, qu'on le subit, qu'on ne peut rien faire contre, qui nous tombe dessus, ben c'est le risque évidemment des grosses pandémies, c'est le risque effectivement des attentats, c'est le risque des accidents d'avion, ce type de risque où finalement on ne peut rien faire contre et c'est en dehors de notre contrôle. Et quelque part, l'homme n'aime pas ne pas pouvoir contrôler la situation. Donc voilà comment à peu près sont classifiés les risques.
Merci. Célia, petite question. Est-ce que ignorer le risque, c'est pas déjà aussi réduire le risque ?
C'est-à-dire ?
Parfois, quand on a conscience d'un risque, on a peur et la peur nous fait finalement nous précipiter vers les conséquences de ce risque. Vous voyez ce que je veux dire ? Ou pas du tout ? Alors, réfléchissez à cette question. Moi-même, je vais y réfléchir. Et on marque une pause, on se retrouve dans un instant.
La sphère neuro, Célia Morès, sur Nutri Radio.
Célia Morès sur Nutri Radio. J'ai posé une question juste avant la pause. Est-ce que ignorer le risque, c'est pas réduire le risque? Vous savez, il y a ce dicton qui dit la peur n'évite pas le danger, Célia, mais parce que quand on a conscience d'un risque, peut-être qu'on va être plus précautionneux, peut-être qu'on va aussi précipiter l'avènement de ce risque. On parlait tout à l'heure les crashs d'avion. Bon, quand on prend l'avion en se disant « Oh là, je prends un risque », est-ce qu'on ne crée pas non plus un climat propice à ce qu'il se passe quelque chose ?
Non, non, là quand même, faut pas exagérer. Là, ça, parfois, ça va fonctionner. Ce que vous dites, ça va plutôt fonctionner lorsqu'on va avoir peur de faire quelque chose en disant « je ne vais pas y arriver, ça va mal se passer, etc. » Ou là, on se met tellement dans l'optique qu'il va y avoir quelque chose de mal que finalement, ça va impacter finalement notre comportement et ça va mal se passer. Mais c'est pas parce qu'on a peur de prendre l'avion, parce que si à chaque fois que quelqu'un dans l'avion, quand on le prend, avait peur de l'avion en disant « j'ai peur » et qu'il y avait un problème… Ça serait quand même dramatique. Non, là, en fait, la seule chose qui peut impacter et qui peut faire en sorte qu'on va avoir une issue négative lorsqu'on va prendre un risque, c'est quelqu'un qui va se dire, ben voilà, j'ai peur de parler en public, je dois faire mon oral d'évaluation, je dois prendre la parole en réunion devant mon chef, ça va mal se passer, je vais me planter, etc. Et se mettre tellement dans l'optique qu'il va être nul que finalement, ben, il va être nul parce que son cerveau a été programmé pour qu'il soit nul ce jour-là, alors qu'il ne l'est pas. Donc là, c'est vraiment autre chose sur lequel il faut travailler. En revanche, après, effectivement, les risques, il faut analyser, prendre une bonne décision. Et d'ailleurs, les plus grands preneurs de risques, il faut quand même savoir qu'il y a des, il faut savoir qu'au niveau des preneurs de risques, enfin, au niveau de la prise de risque, il y a un facteur très important. On parle beaucoup des personnalités, des gens qui prennent des risques, qui sont en recherche de nouveautés, qui vont être impulsifs, mais il n'y a pas que des impulsifs. Dans les plus gros preneurs de risques, notamment, je lisais un article la dernière fois dans un magazine vulgarisé, donc il faudrait que je trouve l'article dont ils se sont servis pour écrire cet article vulgarisé, où justement, vous savez, c'est les gens qui sautent un petit peu, alors ça porte un nom en anglais, jump, je sais plus quoi, qui sautent d'immeuble en immeuble, enfin qui prennent des risques en faisant des espèces de figures, en sautant d'immeuble en immeuble. Et en fait, ben, finalement, on se rendait compte qu'ils n'étaient pas tant preneurs de risques que ça. Certes, ils prennent un risque parce que leur figure sont dangereuses et si quelqu'un, une personne lambda, se mettait à vouloir les imiter, il y aurait des conséquences négatives, enfin, elle pourrait même se tuer, sauf que analyse la situation. C'est-à-dire que si la situation n'est pas propice parce qu'il y a trop de vent, parce qu'il y a la pluie, parce qu'il y a, il y a un autre type de problème, ils ne vont pas le faire. Donc ça, ce sont des risques finalement calculés. Et en calculant le risque qu'il peut se passer quelque chose, effectivement, quelque part, on va le réduire, puisque eux-mêmes réduisent la possibilité qu'il y ait une issue négative à leur prise de risque.
Oui, bon, voilà. Après, ils sont un peu inconscients. Enfin, je veux dire, être totalement dans la... Peut-être qu'ils ignorent ce risque, et du coup, c'est ce qu'il faut aussi qu'ils réussissent les prouesses ou voilà, qu'ils s'en sortent, même si la discipline en question, je pense que c'est une des causes de mortalité sportive les plus importantes aussi. Hein. Bon.
Ah oui, non, tout à fait. Mais quand même, en fait, c'est pas une impulsivité en me disant on a rien calculé et je vais tenter. Non, il y a quand même, mais effectivement, comme dans tout sport extrême, on sait très bien qu'il y a de grosses prises de risque.
En tout cas, c'est d'ailleurs pour ça. Oui, pardon, mais dans l'exemple que vous avez donné, qui était bien meilleur que le mien, la prise de parole en public, on sait qu'il y a un risque qu'on se plante, et donc le fait d'être peut-être conscient qu'il y a un risque de se planter va faire que le risque va devenir réalité parce qu'on se le programme quelque part, c'est ce que vous disiez.
Oui, alors c'est ça, oui.
Quand on l'ignore, ouais. Si on se dit aucun risque, bon, on y va un peu dans l'inconscience et il ne se passe rien, ou en tout cas ça se passe très bien. Donc c'est pour ça que je vous disais, est-ce que avoir conscience du risque, est-ce que ce n'est pas aussi se précipiter vers le danger représenté?
Bah, c'est-à-dire qu'en fait, si on commence à se dire que ça peut mal se passer, effectivement, qu'il peut y avoir des problèmes, etc., probablement qu'il peut arriver, surtout pour une personne qui va être en train de parler en public, elle va avoir tellement ses pensées dans la tête que forcément, ça va la perturber et elle va perdre le fil de ce qu'elle va dire. Mais sinon, il n'y a pas de raison que ça précipite un risque. Ça va précipiter que dans ce que j'appelle la petite spin. Pour les petites activités, j'appelle ça petites activités par rapport aux gros types de risques, là, non, quoi. Je veux dire, là, c'est vrai que avoir vraiment peur, effectivement, quand on a peur, forcément, on peut ne pas avoir les mêmes gestes, la même façon d'agir, et ça va impacter, effectivement, notre manière d'agir. C'est plutôt avoir conscience du risque avant, comment est-ce qu'on évalue le risque et je prends ou je ne prends pas le risque. Après, une fois qu'on y est, bah, effectivement, il faut faire attention quand même à ne pas se laisser submerger par sa peur parce que forcément, la peur, d'abord, n'évite pas le danger, c'est vrai, mais en plus, de toute manière, ça peut être ce problème-là qui fait en sorte que la personne va se planter parce qu'elle aura des pensées négatives et son cerveau se sera programmé pour dire ben, « je suis nulle, je n'y arriverai pas ». Et effectivement, elle sera nulle, elle n'y arrivera pas. C'est ce qu'on appelle parfois même… ça peut paraître bizarre parce que on a toujours l'impression que c'est un peu de la magie, mais pourtant, ce n'en est pas tant que ça. C'est cette pensée positive. Alors, je ne sais pas que je suis une pro de la pensée positive et que je prône absolument la pensée positive, mais plus on sera positif, plus on aura des pensées positives, plus on sera bien, ben moins il y a de risques justement qu'on se plante dans ce genre de situation, prendre la parole, un rendez-vous professionnel, un entretien professionnel. Que si on y va avec la peur au ventre en disant de toute façon c'est perdu, je vais me planter, je ne serai jamais prise, ben forcément je pense qu'on s'est programmé pour ne jamais être prise et pour avoir l'action au moment venu. Qui va déplaire à son futur recruteur et de ne pas être pris. Quoi.
Alors, docteur en neurosciences, Célia Morez, vous ne croyez pas en la pensée positive ? Vous avez dit que, non pas que je sois une fan de la pensée positive, ça veut dire quoi ça ?
Alors, c'est pas que j'y crois pas, j'y crois, mais c'est parce que je vois aussi passer beaucoup de choses de personnes qui sont plutôt dans le mode influenceur, coach, etc., en parlant de pensée positive, et ça déborde en fait de la science, et voilà, c'est, je crois, la pensée positive, mais. C'est vrai qu'il n'y a pas que ça qu'il faut prendre en considération et ce n'est pas tout. Et je voulais faire justement qu'il n'y ait pas d'amalgame entre, enfin, quand on est scientifique et ce qu'on peut entendre de manière fait par certains charlatans parlant de positivité, etc., de pensée positive. Ça dépend qui, j'allais dire, le dit, dans quelle bouche finalement ces mots sont dits. Ça peut avoir aussi des répercussions négatives et avoir effectivement des conséquences négatives sur les personnes. Donc voilà, c'est pour ça, c'est pas parce qu'on pense bien, qu'on est super joyeux, pensée positive, que tout va bien se passer. Mais effectivement, si on a des pensées négatives et qu'on se dit « je suis nul, j'y arriverai pas », on va finir par être nul et pas y arriver. Parce que notre cerveau croit ce qu'on lui dit, en fait. Donc, notre cerveau agit en conséquence de ce qu'on lui dit.
D'accord, donc c'est un peu le comportement qu'on peut avoir face au risque qui va peut-être potentialiser, encore une fois, l'avènement de ce risque. Et comment on réagit en général ? Est-ce qu'on ne réagit pas tous de la même manière ? Comment ça se fait d'ailleurs ?
Comment on réagit au risque ?
Oui, on réagit pas tous de la même manière parce qu'on a un passé, parce qu'on a, des informations différentes.
On a un passé, on a d'abord des informations différentes. C'est vrai que si... moi, je prenais l'exemple de prendre le métro le soir. C'est vrai que on peut avoir peur, perception des risques, parce qu'on a une perception du fait que le métro, c'est dangereux, qu'il y a des agressions, qu'on en parle dans les médias. Effectivement, est-ce qu'il y en a tant que ça ou pas ? Finalement, on n'en sait rien, parce qu'on en parle beaucoup en disant « encore une, encore une, encore une ». Mais proportionnellement, est-ce qu'il y en a encore plus ou pas ? Il y a aussi le fait, si quelqu'un a été, un de ses amis a été harcelé ou qui a subi une agression, forcément, peut-être dans le métro, forcément, ça va impacter notre perception des risques. Donc, c'est vraiment notre représentation mentale, nos croyances, comment est-ce qu'on a été éduqué qui fait que ça, c'est risqué pour certains et ça, c'est pas risqué. Et après, évidemment, il y a les risques qui sont inacceptables et acceptables pour chacun d'entre nous. Donc, évidemment, tout ce qui va être attentat, guerre nucléaire, accident nucléaire, c'est inacceptable pour tout le monde. Il n'y a personne qui va dire « pour moi, c'est acceptable ». En revanche, prendre des risques pour les loisirs, etc., c'est des risques qui sont acceptables, mais justement, dans les loisirs, certaines personnes vont prendre certains risques, d'autres non. Exemple, un saut à l'élastique. Finalement, il y a peu de risques, normalement, que l'élastique casse, mais on prend un risque quand même en le faisant. Il y a des gens qui prendront le risque de sauter à l'élastique parce qu'ils aiment les sensations fortes. D'autres personnes, si on est un petit peu comme moi, jamais je prendrai le risque de sauter à l'élastique. Je ne pourrais même pas le supporter. Donc, ça va être ce type de choses, effectivement, qui font qu'on ne va pas analyser le risque de la même manière. Pourquoi ? Parce qu'on a nos facteurs cognitifs, qui vont analyser le risque, les données réelles cognitives, les informations cognitives dont on dispose. On va avoir aussi le contexte qui fait que on va disposer d'autres informations qui vont nous permettre de nous aider à prendre le risque. Nos émotions, notre ressenti, nos sensations face au risque qui va être positive ou pas. Il y en a certains, ça donne des sensations fortes, un plaisir, une montée d'adrénaline, ils en ont besoin. D'autres, c'est plutôt répulsif. Et puis ensuite, bien évidemment, nos traits de personnalité qui vont permettre effectivement de « je suis preneur de risque ou non ». Il faut savoir aussi que les personnes, quand on évalue un risque, étant donné que c'est subjectif, ça peut nous conduire à des biais d'évaluation, d'où à des mauvaises décisions. Donc, j'invite nos auditeurs Nutri Radio. J'avais fait il y a quelque temps une émission sur le traitement de l'information par le cerveau et notamment comment est-ce que le cerveau prend une décision. Pour prendre une décision à savoir est-ce que le risque est acceptable ou pas, ou est-ce que je prends ce risque-là, bien évidemment, en amont, on analyse le risque. Et effectivement, on peut parfois subir les biais cognitifs et avoir une évaluation biaisée, notamment c'est ce qui va se passer puisqu'on va prendre en considération les informations qui sont le plus rapidement disponibles à notre conscience. C'est pour ça qu'on surévalue les accidents d'avion et qu'on sous-évalue les accidents de voiture. Pourquoi ? Parce que les accidents d'avion sont spectaculaires. Quand il y a un avion qui crache, évidemment, il y a beaucoup plus de morts que lors d'un accident de voiture. Et quand les accidents de voiture sont sous-évalués, parce qu'un accident de voiture, certes, il y a des grands carambolages parfois, mais tous les accidents de voiture ne sont pas mortels, heureusement. Et donc, finalement, on va tendance à sous-évaluer certains risques. Donc, on sait que les personnes, lorsqu'ils prennent un risque volontairement, comme les risques domestiques, leurs risques de loisirs, ils vont sous-évaluer les risques, alors que les risques qui vont être finalement subis, ils vont surévaluer le risque que cela se produise.
Très bien, écoutez, merci beaucoup Célia Morès. Merci pour toutes ces précisions. L'émission sera dispo en podcast là dans un instant sur nutriradio.fr et sur toutes les plateformes de streaming audio si vous voulez les réécouter sans interruption. Merci Célia.
Merci Fabrice.
C'est le retour de la musique tout de suite sur Nutriradio, restez avec nous.
La sphère neuro, Célia Morès sur Nutri Radio.